Mabrouk Chetouane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche et la stratégie chez BFT Investment Managers. On va parler avec vous de l'actualité financière et économique. L'actualité financière, ça a été bien entendu l'élection de Donald Trump, les réactions des marchés américains et mondiaux. Est-ce que ça change la donne sur le plan économique? Est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui sur l'état de sur l'économie mondiale?
Incontestablement, l'élection de Donald Trump a été une surprise, donc, du point de vue des sondages qui nous ont encore fait mentir. Et incontestablement, son élection va modifier quelque peu le scénario économique pour les États-Unis et, in fine, le scénario économique pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ce qu'on peut attendre effectivement de M. Trump, c'est en tout cas s'il met en application l'ensemble des mesures qu'il a énoncées. Il s'agira effectivement de mesures inflationnistes à travers effectivement un canal protectionniste assez fort, puisqu'il a clairement l'intention. En tout cas, on ne sait pas encore s'il va pouvoir le faire très exactement, de monter les tarifs douaniers, donc d'instaurer des barrières à l'entrée pour certains produits visant explicitement la Chine par ailleurs, ou le Mexique. Il a l'intention également de relancer la machine budgétaire, donc d'utiliser le feu budgétaire pour pouvoir dépenser dans les infrastructures, donc rénover un peu les infrastructures. Donc tout ceci est de nature inflationniste à court comme à long terme.
Alors du
Et
coup,
ça.
c'est l'inflation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant, on pourrait dire, des années. Donc là, on reparle de ce sujet de l'inflation, on va peut-être revenir au cœur des questions.
Alors ce sujet était déjà revenu en quelque sorte, puisqu'on a eu effectivement le prix du pétrole qui permettait de voir effectivement ce qu'on appelait la résorption des effets de base se manifester. Et là, en fait, on a une deuxième couche qui est en train d'apparaître aux États-Unis, qui est justement donc la couche trumpienne, si on peut dire, donc de l'inflation, à travers donc les différents effets que j'ai indiqués préalablement, plus, il faut quand même le noter, une économie américaine qui est en haut de cycle, voire en fin de cycle, et qui devrait, in fine, générer des tensions salariales. On le voit encore dans les derniers chiffres de l'emploi qui sont apparus aujourd'hui. On a des demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui n'ont jamais été aussi bas depuis 30 ans. Donc globalement, effectivement, un monde, une thématique, en tout cas de la réflation, qui est en train d'émerger, qui ne sera pas sans conséquence sur les politiques monétaires, bien sûr.
Oui, puis on n'a pas d'idée encore aujourd'hui, effectivement, sur les réalisations et du coup les conséquences sur le commerce mondial, justement, si d'autres États réagissent à ce que font les États-Unis. Si on revient à l'Europe, est-ce que l'Europe, la Banque centrale européenne, a des marges de manœuvre pour, non pas contrecarrer, mais peut-être, parce qu'elle n'est pas dans le même cycle, elle, pour le coup?
Alors effectivement, l'Europe a connu ce qu'on appelle donc le fameux double dip, hein, donc une seconde crise qui a entraîné une deuxième vague de récession en quelque sorte en 2011-2012. Et clairement, donc l'Europe est en train de se remettre de cette récession, grâce notamment à l'appui de la Banque centrale européenne qui maintient des conditions monétaires et financières extrêmement accommodantes. Mais ce qu'il faut souligner surtout par rapport à la zone euro, notamment par rapport aux États-Unis, c'est que la zone euro dispose, d'après nous, des moyens pour croître de manière assez autonome. C'est-à-dire qu'en gros, le commerce international, effectivement, c'est important, mais ce n'est pas non plus la contribution la plus forte à la croissance européenne. Aujourd'hui, la contribution la plus forte reste quand même la consommation. Et on attend effectivement le redémarrage de l'investissement qui accuse un retard très fort. Et d'après nous, effectivement, ces deux briques de la croissance devraient pouvoir continuer de croître au moins même rythme, si ce n'est plus, pour l'an prochain, indépendamment finalement de ce qui se passe aux États-Unis. Donc finalement, c'est plutôt de bon augure pour la zone euro. Donc je suis volontairement optimiste.
Alors en même temps, là par contre, on a vu la hausse du dollar avoir un effet sur les marchés émergents, sur les pays émergents. Là on se dit que peut-être du côté des pays émergents, ça va être plus compliqué si effectivement les États-Unis, le nouveau président l'année prochaine applique sa politique.
Alors, évidemment, enfin, ce qu'on a constaté immédiatement après l'élection de M. Trump, c'est que les marchés émergents ont rendu une partie, effectivement, de la très bonne performance qu'ils avaient enregistrée cette année, notamment les marchés d'actions. Ce qu'on peut par ailleurs dire, effectivement, c'est qu'on a plusieurs catégories d'émergents. Donc, il ne faut pas nous mettre. La thématique du global emerging est terminée. On a effectivement la Russie et le Brésil qui sont parvenus à bénéficier de la remontée du prix du pétrole, donc à avoir des performances de croissance plutôt bonnes, enfin, en tout cas en amélioration. Et également, en fait, une banque centrale qui a permis, en fait, d'alléger la pression sur les devises. Il est vrai qu'avec le resserrement monétaire de la Fed à venir, et potentiellement plus fort que l'on anticipe à cause justement de l'élection de M. Trump, on a effectivement un dollar qui se réapprécie, qui va poser quelques difficultés, notamment aux grands exportateurs comme la Chine, ou alors effectivement comme la Russie ou même le Brésil, qui devraient potentiellement pâtir un peu de cette remontée du billet vert.
Alors, on a vu aussi des réactions sur les taux immédiatement après ces annonces. On se pose des questions vraiment sur les marchés obligataires quand on connaît le volume, hein, d'investissements qui ont eu lieu sur ces marchés. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas un risque systémique, on pourrait dire?
Pour avoir dit autrement un krach obligataire, il faudrait que les taux remontent de manière beaucoup plus substantielle. On l'a vu effectivement au mois de mars 2000, 2016, pardon, lorsque la BCE a commencé son programme d'assouplissement quantitatif, on a eu effectivement le taux d'intérêt 10 ans allemand qui est monté à 1%. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Il s'agit plus en fait d'un effet de sympathie, si je puis dire, de la remontée en fait des taux d'intérêt américains qui se diffusent sur les taux d'intérêt européens. Ce qui est certain, c'est que ça gêne clairement un peu la BCE qui, encore une fois, tente de maintenir des conditions financières et monétaire extrêmement accommodante, et on peut effectivement supposer que son intervention du 15 décembre sera décisive pour pouvoir justement calmer le jeu en matière de taux d'intérêt. Et on l'a vu d'ailleurs par rapport à la Banque du Japon, qui n'a pas hésité à intervenir justement au lendemain de quelques jours après l'élection de Donald Trump pour justement maintenir sa cible de taux d'intérêt à 10 ans à 0%.
Oui, parce que là, on voit que les marchés, les investisseurs sont plus agités sur notamment la zone périphérique, que ce soit où les pays comme l'Italie, comme l'Espagne ou Portugal. On voit que sur les taux, ça bouge sur certaines maturités, par exemple.
Effectivement, sur les taux italiens, on voit que le spread par rapport à l'Allemagne continue de s'écarter. Alors là, il s'agit d'une thématique très spécifique, puisqu'on a encore une fois le référendum, cette fameuse date butoir du 4 décembre, avec des déclarations finalement de Matteo Renzi qui sont un peu plus anxiogènes que ce qu'on avait eu il y a quelques semaines, donc indiquant qu'il pouvait potentiellement partir, donc ça n'a pas plu au marché, qui intègre finalement ce risque politique à travers justement les taux d'intérêt des obligations d'État. Et par effet de contagion, par voie de sympathie si je puis dire, on a effectivement les taux d'intérêt espagnols qui, dans une moindre mesure, également connaissent une appréciation.
Pour l'investisseur, on sent bien qu'il y a un nouveau contexte, hein, on a parlé du scénario qui a évolué, des événements politiques qui se succèdent. Comment peut évoluer l'allocation d'actifs, puisqu'on a l'impression qu'il faut qu'il se prépare à peut-être de nouveaux risques.
Effectivement, les risques sont assez nombreux. Donc, au-delà du risque politique qu'on a par ailleurs plus ou moins émunéré, on a également donc des risques relatifs à la Grande-Bretagne qui devraient effectivement se manifester au début de l'année prochaine. Mais au-delà de ça, d'un point de vue allocation, on a quand même des facteurs de soutien qui restent relativement puissants, notamment sur le marché du crédit par ailleurs, même si on a quelques tensions qui se manifestent. Sur le marché des actions, on a vu très récemment, et notamment ça s'est renforcé avec l'élection de M. Trump, une rotation en fait vers des valeurs qui ont été complètement abandonnées et, permettez-moi l'expression, massacrées par le marché. Donc aujourd'hui, ces valeurs reviennent en force, soutenues justement par une thématique de croissance qui est présente en 2016 et qui devrait rester présente en 2017. Donc finalement, il faut plutôt être sélectif dans son approche, que ce soit sur les marchés d'actions ou encore sur les marchés du crédit.
Et ben on suivra ça. Merci Mabrouk.
Merci
d'avoir été avec nous.